C'est donc si passionnant, l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
L'Allemagne en Europe.
Monsieur Strauss, est-ce que les Allemands aujourd'hui sont heureux?
Oui et non, comme ci, comme ça. Nous avons une prospérité économique considérable. Pas de chômage. Le Deutschmark est stable. Mais nous avons quelques problèmes politiques. Nous sommes exposés à quelques incertitudes.
La voix et l'accent inimitable du taureau de Bavière, Monsieur Strauss, qui longtemps dirigea en Bavière la CSU, l'allié des démocrates chrétiens CDU. La prospérité qui dure, jusqu'à exercer une hégémonie économique en Europe, l'assurance qui gagne, la tentation d'infliger des leçons, la position dominante dans laquelle l'Allemagne a fini par se trouver, lui est mal commode politiquement. Après la défaite, elle avait pratiqué la doctrine de l'auto-limitation. Elle se présentait comme la servante de la paix, de la démocratie, comme un État post-national. Mais voilà, le territoire compte encore. Celui de l'Allemagne est campé au cœur de l'Europe, économiquement attractif. Le patriotisme en Allemagne s'était cristallisé autour de valeurs constitutionnelles. Le nationalisme qui revient relève de valeurs traditionnelles, ressurgissant d'un vieux passé. Le score de l'AFD aux dernières législatives montre que le nazisme lui-même n'est plus une limite infranchissable. Le parti d'extrême droite est parvenu en un temps record à plus de 12% des voix. Les différents courants de l'opinion allemande d'un même mouvement adhéraient à l'extérieur à l'Europe comme avenir, à l'intérieur convergeaient vers des positions centristes. Mais le centre a déçu. Les délégués sociaux-démocrates au congrès du SPD de dimanche n'ont voté que de justesse le principe d'une nouvelle grande coalition avec les chrétiens-démocrates. Quant à l'adhésion à l'Europe, l'opinion s'en éloigne lentement, avec parfois même des moments de rejet, comme en 2010-2011, pendant la crise de la dette souveraine, où l'Allemagne se tint sur son quant à soi. Mais ceux qui espèrent toujours en la construction européenne diront que c'est lorsque l'hégémonie de l'Allemagne est la plus forte que la France lui est la plus nécessaire. L'orchestration, ce jour de l'anniversaire du traité de l'Élysée, le prouve.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Hélène Miard de la Croix, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai présenté à l'instant comme professeur à la Sorbonne, mais ça c'est un titre qui n'existe plus depuis des lustres.
Si, ça existe de nouveau, puisque depuis le 1er janvier dernier, la Sorbonne Université est la reconstitution de la Sorbonne Lettres, Sciences et Médecine.
Ah, comme avant l'éclatement
dans les années
qui
60.
Avait suivi 68.
Exactement.
Ah d'accord. Et vous êtes en toge quand
Non. De temps en temps seulement, très rarement.
On revient quand même un peu à la toge, mais très, très rarement. J'aimerais, puisque on parle presque intimement, là, que vous me disiez quelle est l'origine de votre curiosité pour l'Allemagne.
L'origine de ma curiosité pour l'Allemagne n'est absolument pas familiale. Il n'y a aucune prédestination dans un sens ou dans un autre. C'est vraiment mon domaine à moi. Et ça vient des années 70 où j'étais lycéenne et j'ai passé mon bac au moment de la fraction armée rouge, au moment où l'Allemagne interpellait, inquiétait. Et je me suis intéressée très très fortement pour la façon dont un État démocratique s'est constitué après la guerre et a réussi à défendre l'État de droit alors qu'on a un passé extrêmement lourd de dictature.
Oui, c'est l'époque où le président de la République allemande disait « Nous n'abandonnerons pas les valeurs sur lesquelles nous nous sommes reconstruits sous prétexte que le terrorisme nous menace. »
Tout à fait, et où les regards étrangers critiquaient la possible renaissance d'un État policier en Allemagne. Et toute cette question m'a passionnée, donc je me suis intéressée à l'Allemagne fédérale.
Mais à propos d'État policier, il y en avait un, c'était la RDA qui intéressait beaucoup de chercheurs français.
Beaucoup de chercheurs français s'intéressaient plutôt à la RDA, souvent d'ailleurs avec un regard assez peu critique, parce qu'ils considéraient que c'était vraisemblablement la meilleure Allemagne, comme la RDA le disait d'elle-même, qu'elle avait tourné le dos au passé, alors que les traditions anciennes, et notamment nazies, auraient perduré dans l'Allemagne capitaliste.
Mais vous dites, tous les efforts que nous autres, universitaires, faisons pour la connaissance mutuelle des deux pays, ça ne sert pas tant que ça. D'Eric sert bien davantage.
Ça se complète. Je crois que Derrick a joué un rôle très très important pour rendre assez familier au public de télévisé français à quoi ressemble l'Allemagne et comment les gens y vivent. Je pense que c'est s'il y a bien un résultat du rapprochement franco-allemand, c'est trouver que l'autre est moins différent qu'on ne le croyait finalement.
Enfin, sauf que depuis 2013, Derrick est suspendu de rediffusion puisqu'on s'est aperçu que l'acteur principal n'était pas un simple ambulancier de la Wehrmacht, mais un membre de la Waffen-SS. Bon, passons. Encore que, on va évidemment commencer par la Deuxième Guerre mondiale pour vous échauffer, Hélène Mire de la Croix. Je vous propose d'écouter une grande voix de la Radio Nationale Française qui s'est éteinte malheureusement trop tôt. Il parle ici avant même la fin de la guerre et il explique in petto que l'histoire commence toujours par la géographie, que de celle-ci il faut se méfier.
Défiez-vous de l'Allemagne. L'Allemagne restera l'ennemi, même lorsqu'elle aura été vaincue par les armes. Car si la France est faible, l'Allemagne a encore l'espoir et la conviction, même si elle est battue, de devenir le pivot de l'Europe de demain, de servir de trait d'union entre l'Ouest et l'Est. Ce qui importe pour nous, c'est que la France soit assez forte pour jouer ce rôle de trait d'union ou de charnière entre l'Ouest et l'Est, que l'Allemagne conserve encore l'espoir, si invraisemblable paraît-il, de jouer un jour ou l'autre.
Le trait d'union, bien qu'on soit un peu à l'Ouest, c'est nous, au fond. Je pense que Pierre Bourdan relève là le mythe de la grande nation. Nous sommes le trait d'union parce que nous sommes la grande nation, avec un G et un N majuscule.
Oui, là ce qu'il dit dit beaucoup plus de choses sur la France que sur l'Allemagne, mais en même temps ce discours sur une Allemagne menaçante et potentiellement se relevant de ses cendres pour maîtriser, pour dominer les autres, c'est tout à fait caractéristique de la période de l'après, du second après-guerre, et qui accompagne les traumatismes français de divers confrontations militaires avec l'Allemagne. Ça fait partie aussi du discours sur soi que la France, se relevant avec le gaullisme, a essayé d'imposer comme le pays, la France, qui peut rassembler l'Est et l'Ouest. Sauf que, d'un point de vue de la géographie, c'est quand même l'Allemagne qui était au contact entre l'Est et l'Ouest, même si, contrairement à ce qu'il dit, elle n'avait à l'époque, en 1945, absolument aucune intention de dominer quoi que ce soit. Il s'agissait plutôt de survivre et puis de faire face aux défis qu'était la guerre froide sur le propre territoire allemand.
Mais en 1945, les Alliés, Pierre Bourdan et leur voix, veulent que l'Allemagne revienne à l'année zéro. Dans un certain nombre de milieux allemands, peut-être des milieux chrétiens essentiellement, consciemment ou pas, on se dit non, nous ne sommes pas à l'année zéro, ce qui vient de se passer va peut-être nous permettre de retrouver une continuité avec l'Empire. Je veux parler du Saint-Empire romain germanique. Pour la France, la grande nation, pour l'Allemagne, l'Empire. Qu'est-ce que c'était cet empire auquel on repense et on reprend le blason de l'Empire en 1948?
Alors, c'est très problématique de parler de cette question avec les Français, parce que les Français associent à l'Empire tout à fait autre chose, notamment l'Empire colonial français. Et puis, si on prend le mot allemand, le Reich, là, on associe le Reich tel qu'il a été dévoyé par les nazis sous le titre de Troisième Reich. Non, l'Empire, donc le Saint-Empire romain germanique, c'était l'organisation, si vous voulez, de l'Ancien Régime dans tout l'espace central de l'Europe, qui était dirigé depuis Vienne, avec un empereur qui était traditionnellement un empereur catholique, la famille des Habsbourg, qui a tenu près de 1000 ans. Et cet empire, il n'est pas du tout menaçant, puisque en tant que structure, il n'est que, si vous voulez, une structure confédérale rassemblant, comme dans une grande parenthèse, un peu plus de 300 États, qui sont des principautés, ce sont des princes, et des quelques villes libres, et puis des quelques principautés aussi qui relèvent de l'Église. Et c'est une structure qui sert à maintenir ensemble des souverainetés très très sauvagement réclamées par des tout petits territoires.
C'est drôle, parce que vous me présentez l'Empire comme plein de bénévolence, et alors quand je demande à membres de l'équipe de la Marche de l'Histoire, illustrez-moi l'empereur du Saint-Empire romain germanique, voilà ce qui me sort. Il me sort Charles Quint, qui n'était pas toujours paisible.
Bientôt survint la mort de mon aïeul Maximilien à la 19e année de mon âge. Et quoique je fusse encore fort jeune, on me conféra à sa place la dignité impériale. Je n'y prétendis pas par une ambition désordonnée de commander à beaucoup de royaumes. mais afin de procurer le bien de l'Allemagne, de pourvoir à la défense de la Flandre, de consacrer toutes mes forces au salut de la chrétienté contre le Turc et de travailler à l'accroissement de la religion chrétienne. Mais si ce zèle fut en moi, je ne pus pas le montrer autant que je l'aurais voulu à cause des troubles suscités par les hérésies de Luther et des autres novateurs de l'Allemagne, et à cause des guerres périlleuses où m'ont jeté l'inimitié et l'envie des princes, mes voisins, et dont je me suis heureusement tiré par la faveur divine. Aujourd'hui, je me sens si fatigué que je ne saurais vous être d'aucun secours, comme vous le voyez vous-même. Dans l'état d'accablement et de faiblesse où je me trouve, j'aurais un grand et rigoureux compte à rendre à Dieu et aux hommes si je ne déposais l'autorité.
La vision de l'Empire de la France reste marquée d'une certaine distance, surtout quand c'est la voix d'Alain Cudy qui interprète le personnage de Charles Quint. Ce qui est très important dans ce qui vient d'être dit, c'est la dimension religieuse. C'est l'Empire romain germanique, le Saint-Empire romain germanique.
Oui, tout à fait, qui se veut la continuation de l'Empire, si vous voulez, et de la chrétienté incarnée dans cet empereur. Alors, ce qui est intéressant avec Charles Quint, pour les auditeurs, c'est peut-être un peu compliqué, il était en Espagne, mais c'était un Habsbourg, et il luttait contre les autres princes d'Europe. C'est qu'on, il ne faut pas confondre l'empereur lui-même qui est élu par les autres princes allemands et qui concourt en Europe face aux autres grands États, si vous voulez, et la réalité vécue à un niveau plus bas dans le Saint-Empire. Empire allemand qui était, ou pour lequel l'empereur était très lointain, il était élu par les princes, mais la réalité était que on avait en commun soit, en effet, d'être catholique, soit après la réforme, d'être protestant et on était en querelle avec son voisin et c'est à cela que servait l'empereur et c'est à cela que servait la diète d'empire, c'était de calmer un petit peu toutes ces guerres privées, elles ont été interdites d'ailleurs
par des contre-pouvoirs
et par, une opération de médiation entre des querelles de frontières et des querelles de commerce.
Enfin, c'est ce que nous disent les chrétiens démocrates au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de la diète au parlementarisme, du christianisme, du Saint-Empereur au christianisme renouvelé et la structure fédérative intérieure de l'Allemagne.
Alors c'est ça, je crois. Si on veut rechercher une certaine continuité dans l'inspiration de l'Europe que pouvaient avoir les démocrates chrétiens après la Seconde Guerre mondiale, c'est bien l'idée du fédéralisme. Parce que, et ça c'est une chose qu'on ne sait jamais assez, la seule période dans l'histoire de l'Allemagne où l'Allemagne a été dirigée de manière centralisée, c'est le nazisme. C'est 33-45. Toutes les autres périodes, y compris l'Empire, quand il y avait Bismarck, quand il y avait Guillaume II, y compris Weimar, c'est toujours des structures de confédération ou de fédération, plus ou moins propres, plus ou moins resserrées, et qui donnent surtout à l'unité régionale l'essentiel du pouvoir, les niveaux supérieurs, et c'est comme ça qu'on peut donc imaginer l'Europe, permettant essentiellement de gérer ensemble des affaires communes pour lesquelles il est plus commode de les mettre en commun.
Ça s'appelle, d'un mot compliqué, subsidiarité. Regardez, ça marche très bien pour l'audiovisuel public en Allemagne.
Ah, tout à fait, en Allemagne.
Il n'y a pas besoin de faire un seul office.
Absolument pas, et on ne le voudrait absolument pas. Il y a des centres de médias dans la plupart des Länder allemands, et ils se réunissent ensemble dans une espèce de pool commun où ils mettent leurs émissions en commun, et cela fonctionne très bien ainsi.
Et les émissions de la radio bavaroise peuvent ainsi être partagées au niveau européen dans l'UER.
Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion télévision française présente un concert public donné au Théâtre des Champs-Élysées à Paris par l'Orchestre symphonique de Munich de la radio bavaroise sous la direction de Eugène Jokum avec le concours de Julius Katchen, pianiste. Voici tout d'abord l'ouverture du Freischütz de Weber.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Hélène Mière de la Croix, l'Allemagne en Europe. Alors aujourd'hui, c'est la commémoration, la célébration du 55e anniversaire du traité entre Adenauer et De Gaulle, le traité mythique, le traité de l'Élysée. Le président de l'Assemblée nationale était au Bundestag tout à l'heure, et le président du Bundestag, le président...
Schäuble.
Voilà. À l'Assemblée nationale, et vous serez dans le public, cet après-midi. Le traité de l'Élysée, il était scellé par Adenauer et De Gaulle, mais enfin, il était édité, manduqué, pensé déjà sous la quatrième.
Oui, c'est-à-dire c'est une erreur de penser que la réconciliation franco-allemande ne débute qu'avec Adenauer et De Gaulle le 22 janvier 1963, on pourrait dire après 62, quand il y a eu des visites officielles de part et d'autre. Non, si on veut, même sans vouloir retirer toute importance à cet acte qui avait pour objectif de faire mieux se connaître et travailler ensemble les institutions des deux pays, il faut remonter aux années 50. Et au-delà d'initiatives de la société civile, d'anciens résistants, il faut bien évidemment penser au travail de rapprochement qu'a fait le ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman et Konrad Adenauer, qui dès avec la déclaration Schuman du 9 mai 1950, tendait la main aux Allemands en leur permettant de trouver une situation qui améliore la situation économique de l'Allemagne en limitant les contrôles de production de charbon et d'acier, tout en permettant aux Français de profiter d'une plus grande production et en créant en même temps un système où on se contrôlait réciproquement. Et ça, c'est tout à fait essentiel parce que de la part de l'Allemagne et de Adenauer qui était chancelier à l'époque, c'était la meilleure solution possible pour arrimer l'Allemagne de l'Ouest à l'Ouest. N'oublions jamais la guerre froide qui est très importante et arrimer l'Allemagne de l'Ouest à l'Ouest par l'économie et par un système collectif de production apaisé permettait à l'Allemagne fédérale, qui était très très contrite, de parler à hauteur d'yeux comme un partenaire respectable avec ses voisins avec qui elle avait fait la guerre.
J'aime bien le mot contrite. Donc l'Allemagne joue la carte de la contrition où l'Europe va être pour elle l'arme de la rédemption, l'instrument de la rédemption, tandis que pour la grande nation, pour la France, c'est le moyen de la réincarnation. Le chancelier Adenauer a 5 colonnes à la une avec Georges Panchenier en 1959, donc quelques années avant la signature du traité de l'Élysée. Vous allez voir qu'il est dans l'auto-limitation permanente.
Monsieur le chancelier, voici tout un paquet de lettres encore. Ce sont des lettres qui viennent de partout. Il y en a une de Madame Delaporte de Paris, une autre d'une petite fille qui a 10 ans à peine, qui s'appelle Catherine Coquet. Puis il y a des anciens prisonniers de guerre, il y a même des anciens combattants. Bref, tous, d'une façon générale, souhaitent une association franco-allemande et ils expriment l'espoir qu'il y aura un jour les États-Unis d'Europe. Mais dans toutes ces lettres, un leitmotiv, que faire pour y arriver ?
Je ne peux oublier ce jour où à Paris, la fille d'un ancien combattant tué pendant la Première Guerre mondiale est venue me voir à mon hôtel et m'a donné...
La croix de guerre.
Et elle m'a donné la croix de guerre de son père comme un symbole de la paix retrouvée, de la paix définitive entre nos deux peuples.
Je vois ici une lettre de M. Sanua, qui vient de Paris également, et qui, lui, parle de l'expansionnisme allemand. Et je pense qu'il fait allusion, il le dit d'ailleurs, il fait allusion à la ligne de l'Oder-Neisse, et il se demande dans quelle mesure le fait de vouloir reprendre des territoires à l'est de l'Oder-Neisse ne pourrait pas nous entraîner dans une guerre mondiale.
Nous n'y pensons même pas, dit le chancelier. S'il y a une chose de sûre, c'est que nous ne rechercherons aucune solution par la force.
La paix, l'obligation. Nous ne sommes que paix, obligation, démocratie, citoyenneté. C'est ce qu'on a appelé le patriotisme constitutionnel. Enfin, un patriotisme qui est fondé sur des valeurs morales plus que sur la présence de la nation. C'est le poste national.
Absolument. Je pense que c'est pas une figure de style. Quand il parle de paix et qu'il évoque en effet les anciens combattants, etc., c'est une génération qui l'a vraiment vécu ainsi et qui a considéré que l'ensemble du devoir de cette génération était d'établir une paix qui dure. L'auto-limitation, elle est en effet la leçon qu'a tiré l'Allemagne fédérale des errances, si vous voulez, du passé. C'est aussi avoir bien écouté les leçons des occupants occidentaux qui avaient rééduqué les Allemands, les avaient dénazifiés. Mais je crois que c'est en effet absolument structurant de la culture politique de l'Allemagne fédérale jusqu'à la réunification, qui est de dire que la notion de nation a tellement été dévoyée et foulée aux pieds par des expansionnistes et des nationalistes et des criminels, que l'Allemagne ne pouvait plus se permettre de revendiquer une quelconque puissance nationale, et qu'on était au-delà, et que les valeurs de la démocratie telles qu'elles étaient inscrites dans la Constitution permettaient de penser, même de penser l'Europe, puisque au fond, qu'on soit allemand ou autre chose n'avait pas d'importance si on pouvait avoir ce projet. Il évoque, quand même, on évoque les États-Unis d'Europe, ouais. qui reste vraiment le rêve de cette génération.
Les Allemands de cette génération sont intégrationnistes. Ils sont dans le surmoi plus que dans le moi. Enfin, ils sont dans l'identification nationale par des valeurs qui ne sont plus nationales, et ils ne sont pas dans l'identité nationale.
Oui, on peut dire ça. On peut dire aussi très clairement que la construction européenne, parce qu'elle a apporté, comme je le disais, très très rapidement dans le cadre de la guerre froide, la possibilité d'être considéré à nouveau comme des gens sérieux, partenaires, responsables, a été un ersatz, et je prends le mot allemand exprès, un ersatz de nation, c'est-à-dire un succès d'année, donc un élément de projection, si vous voulez, d'identité, de fierté.
Ouais. Alors vous avez été pris au jeu de l'Alsace, ou aussi vous êtes arrivé d'écrire que beaucoup moins qu'autrefois, l'histoire ne passe par la géographie, ne commence par la géographie et ne passe par l'État. Bah oui, mais réunification, l'Allemagne retrouve son lit, là, au centre de l'Europe, elle n'est plus une extrémité d'une jonction avec l'Est. Alors, inquiétude, hein, du côté français, et pas seulement du côté français. Faudrait d'ailleurs faire le rapprochement, on ne le fait pas assez, entre 1989 et une autre date, 2005. Alors là, l'inquiétude, elle est chez les Allemands, qui, quand ils voient les Néerlandais et surtout les Français voter non au projet de constitution, sont pris d'une crainte. Parce que pour les Allemands, une constitution, le droit, l'écrit, il n'y a pas mieux.
Oui, en effet. Alors là, on va un petit peu vite, parce que c'est vrai que la réunification, c'est en fait la RDA qui s'est effondrée, qui a adhéré au système démocratique et constitutionnel de l'Allemagne de l'Ouest. C'est pas pour autant que l'Allemagne ne faisait plus le point de jonction. Au contraire, elle s'est considérée comme ayant le devoir de rattacher, de ramener ou d'amener vers l'Ouest et vers la construction européenne les anciennes démocraties populaires du bloc soviétique. Et 2005, le non français et le non néerlandais à cette fameuse constitution extrêmement compliquée que personne n'avait l'air de bien comprendre, a suivi immédiatement 2004, qui est l'élargissement à l'Est de l'Europe, c'est-à-dire l'adhésion de 10 nouveaux membres. Et l'Allemagne l'a poussé très fort pour cet élargissement. On s'en mord un tout petit peu les doigts aujourd'hui lorsqu'on en voit comment notamment les Polonais et les Hongrois se comportent vis-à-vis des valeurs européennes. Mais l'Allemagne a poussé parce qu'elle estimait que, étant le point de jonction, elle, l'Allemagne fédérale, avait eu la chance d'être du bon côté, d'être tombée du bon côté du mur, d'une certaine façon, et que nos voisins de l'Ouest avaient le droit de participer à cette grande aventure, leur permettant la croissance et les droits et les libertés des individus.
Bon, on va un peu vite, mes questions sont cursives et elles sont surtout naïves. Nous sommes maintenant dans une toute autre période. Vous parlez de ce qui se passe en Pologne, en Hongrie. Il semble qu'un certain nombre d'Allemands admirent les positions nationalistes, traditionnelles, qui reviennent dans ces pays. La question de la migration a vu des crispations en Allemagne. Et je voulais vous faire part d'une dernière interrogation. Elle concerne le retour de l'extrême droite au Bundestag. C'est aux dernières élections 94 députés de l'AfD qui sont maintenant en train de siéger à Berlin. Et la première séance a été très difficile, puisque le doyen d'âge appartenait à l'AfD. C'est un négationniste. Il a fallu changer les règles, donner la parole pour le discours d'ouverture au doyen d'élection, à quoi l'AfD a dit « vous vous comportez comme Göring ».
Wolfgang Schäuble, élu à une large majorité président du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. À 75 ans, l'ancien ministre des Finances a dû appeler au calme alors que l'extrême droite faisait ses débuts au Parlement sur fond de polémique.
La grande majorité des citoyens de notre pays veut une vie ensemble, civilisée, et dans ces temps mouvementés, nous avons besoin de revenir à des comportements dont nous ne parlons pas parce qu'ils sont évidents.
Über die man lange nicht mehr geredet hat, weil man sie als selbstverständlich ansah.
L'arrivée de l'AfD marque une césure, un changement dans la vie politique allemande. Pendant ce temps, à l'extérieur du Parlement, une manifestation contre le racisme réunissait quelques militants. Une façon de montrer que l'irruption de l'extrême droite au Bundestag est un choc pour une large partie de l'opinion allemande.
Les comportements qui étaient évidents ne le sont plus.
Bah, c'est-à-dire que ce n'est pas le retour de l'extrême droite au Bundestag, c'est l'arrivée de l'extrême droite au Bundestag. Ça n'est pas arrivé depuis les nazis, depuis 1945, qu'un parti, il y a eu des partis néo-nazis, mais qui n'ont jamais réussi à passer la barre des 5%. Donc ça, c'est quand même très nouveau. Et ce qui est évoqué, l'épisode qui est évoqué là, est tout à fait caractéristique de ce parti AfD, dont on ne sait pas si c'est du populisme de droite ou si c'est réellement de l'extrême droite. En tout cas, les personnalités qui ont été évoquées, notamment donc celui qui a évoqué Göring, là, ce sont très clairement des gens qui très systématiquement essaient de repousser la limite du dissible en reprenant du vocabulaire de l'époque de Weimar, du vocabulaire des nationalistes et en disant, ben quoi, être national, être fier de son pays, c'est pas grand chose. Sauf que c'est pas n'importe où que ça se passe et ça se passe en Allemagne. C'est pour ça que je n'aime pas parler de l'avenir parce que c'est pas mon travail, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ils peuvent percer aussi loin en jouant sur cette corde parce que l'Allemagne fédérale et l'Allemagne réunifiée a quand même une hypersensibilité à ces questions. D'être traité de nazi, c'est pas quelque chose qui soit praticable, si vous voulez. Alors ils vont réhabiller les choses en expliquant que c'est pas du nazisme, mais c'est du nationalisme bien compris, c'est de la fierté, c'est être des vrais Allemands. Ils utilisent là toutes les cordes bien connues qu'utilisent les populistes dans tous les pays, parler au nom du petit peuple qui est victime des médias, des politiques, des intellectuels et de tout ce que l'on veut. Jusqu'à quel point ce parti va accepter cette coloration d'extrême droite, je n'en suis pas sûr.
Avec deux, trois chiffres, vous n'aurez pas beaucoup de mots à dire. L'opinion allemande demeure fidèle à cette idée européenne à laquelle elle a adhéré dans le prolongement du vieil empire.
Alors l'eurobaromètre de l'été dernier dit que 56% des Européens sont optimistes, 59% des Allemands, donc c'est un peu plus, 40% en France ont une image positive, 45% en Allemagne. Vous allez me dire, il y a plus d'Allemands que de Français qui ont une image positive de l'Europe, sauf que 45%, ça fait encore même pas tout à fait la moitié. Donc il y a en effet une dégradation, mais qui n'est pas récente. À la limite, les derniers chiffres donnent l'impression que ça remonte. Donc on verra ça dans quelques années. Il semble surtout que les demandes soient similaires. On demande en Allemagne à l'Europe une protection contre le terrorisme, on veut plus de sécurité et on veut une stabilité.
Merci à vous Hélène Miard de la Croix. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Valérie Astaraï à la réalisation, Nicolas Delmas à la technique. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce qu'est l'épigénétique du grec ancien, n'est-ce pas Mathieu?
On va le faire dans un instant Jean, vous inquiétez pas, j'ai la meilleure personne pour ça.
C'est Edith Heard.
Absolument.
Il est 14h, vous écoutez France Inter.